Conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 31 mai 1989.
Essayez de voir, avec cet article de saint Thomas, comment dans la création est présent le mystère de la très sainte Trinité. D'une manière non explicite, ce n'est pas en tant que Dieu est trois personnes et qu'il crée. Mais d'une manière implicite, autant qu'on peut dire implicite, les trois personnes divines sont présentes dans l'œuvre de la création. Petite affirmation de saint Thomas qui est très mystérieuse, difficile à bien comprendre, puisque la très sainte Trinité est toujours en acte, donc implicite, pas du côté de la très sainte Trinité, mais du côté de la créature. La créature est dépendante immédiatement du Dieu créateur dans ce qu'il a de propre comme Dieu créateur, c'est-à-dire en tant qu'il est l'ipsum esse subsistens, en tant qu'il est l'être qui subsiste par lui-même et en lui-même. Et la créature est donc reliée en acte explicitement au mystère de Dieu l'ipsum esse subsistens. Et la créature est reliée en acte par les attributs divins aux processions divines. Quand il s'agit du mystère de la grâce, le mystère de la très sainte Trinité est alors présent explicitement. La grâce est communiquée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La grâce, participation formelle à la nature divine, est donc trinitaire. Il faut bien comprendre ça. Toute notre vie divine est trinitaire. Et en vous parlant la dernière fois du mystère de la vie chrétienne, de la vie religieuse, qui est l'explicitation de la vie chrétienne de la manière la plus forte. La vie religieuse, c'est la vie chrétienne, parfaitement épanouie, ou qui demanderait d'être parfaitement épanouie. Et c'est la vie chrétienne. Donc c'est une vie trinitaire. Quand je vous disais donc que le mystère de la vie religieuse s'appuyait sur la grâce chrétienne et donc sur le mystère de l'incarnation, et que nous ne pouvions comprendre parfaitement ce mystère de la vie religieuse qu'en regardant le mystère de la rédemption où Marie joue un rôle très particulier dans le mystère de la rédemption. Vous voyez, essayez de comprendre la maternité de Marie par rapport au mystère de l'incarnation. Et le mystère de Marie par rapport au mystère de la rédemption. quelle est la relation entre les deux? C'est important pour nous. Quand je dis que la grâce chrétienne, que la vie religieuse se fonde sur le mystère de l'incarnation, sur le mystère de la maternité divine de Marie, sur le mystère de la rédemption et sur le mystère de la compassion. Quatre relations. Il faut comprendre. J'espère que vous voyez bien. Nous sommes reliés par la grâce chrétienne au mystère de l'incarnation, au mystère de la maternité divine de Marie, au mystère de la rédemption, au mystère de la compassion. Je voudrais un petit peu préciser ça avec vous, mais, parce qu'on est un peu arrêté là. Marie est liée au mystère de l'incarnation par sa grâce divine. Marie, elle est chrétienne. Elle est même la première parmi toutes les chrétiennes. Sa grâce n'est pas du tout une grâce de retour au paradis terrestre. Sa grâce est une grâce qui la lie à Jésus, qui la lie au mystère de l'incarnation, fondamentalement. Et Marie est liée au mystère de l'incarnation d'une manière spéciale, toute spéciale, comme mère. Elle est immaculée pour être la digne mère de Jésus. Elle est la mère de Jésus, la mère de Dieu, par sa foi, son espérance et son amour. Puisque c'est une maternité divine, c'est une maternité contemplative. Puisque Marie ne peut être mère de Dieu qu'en atteignant dans sa foi le mystère du Verbe qui s'incarne, dans son espérance et dans sa charité. Donc, maternité contemplative. Maternité miraculeuse. Et maternité selon la chair et le sang. Ce qui est unique à Marie, c'est cette maternité miraculeuse selon la chair et le sang. Jésus le dit explicitement dans Saint-Luc. Mon frère, ma mère, c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc la grâce chrétienne nous permet d'écouter la parole de Jésus. Et en écoutant la parole de Jésus, il y a un lien de maternité. Par Marie, c'est sûr. Parce qu'elle est la première. Elle est modèle de toute maternité à l'égard de Jésus. Vous savez ce passage très curieux dans Saint-Luc, hein? Mon frère, ma sœur, ma mère, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus montre que ce qui est essentiel dans notre vie chrétienne, c'est d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et qu'en écoutant la parole de Dieu, on est la bonne terre et on est mère de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est féconde dans la mesure où on la reçoit. Donc il y a une certaine maternité divine. Est-ce que la vie religieuse comprend ces paroles de Jésus au sens le plus fort? Toute notre vie religieuse, c'est recevoir la parole de Jésus pour être la bonne terre. Et c'est notre lien avec la maternité divine de Marie. Être la bonne par la foi. L'espérance et la charité. On reçoit la parole de Dieu. La vie religieuse nous met dans ce lien avec Jésus particulier qui consiste à recevoir la parole de Jésus. La recevoir dans une bonne terre. Et c'est vrai que la vie religieuse, selon les trois vœux, écarte tout ce qui empêche d'être la bonne terre. Mais le noviciat est fait pour devenir la bonne terre. Permet d'être un jardinier extraordinaire pour enlever les gros cailloux, pour enlever les mauvaises herbes, pour enlever les distractions, le dilettantisme. Les trois aspects par où on n'est pas la bonne terre. On n'est pas la bonne terre quand la parole de Dieu tombe sur de la pierre, quand la parole de Dieu tombe sur des ronces, et quand la parole de Dieu tombe sur le chemin. Et alors, la vie religieuse fait cette intériorité pour que nous vivions parfaitement de la parole de Dieu. C'est pour ça que le mystère de la parole de Dieu et de la vie religieuse est très très lié. Bonne terre par rapport à la parole de Dieu. C'est bien un mystère de maternité. Devenir la bonne terre. Et on devient la bonne terre par rapport au mystère du Verbe incarné. C'est-à-dire la parole de Dieu. Puisque le Verbe incarné, c'est la parole. Pas le Verbe tout court, mais c'est la parole de Dieu. Et nous avions vu le lien entre l'incarnation et la vie religieuse, en ce sens que l'incarnation met l'humanité sainte de Jésus dans un état de dépendance radicale à l'égard de Dieu, à l'égard du Verbe, à l'égard du Père, à l'égard de l'Esprit Saint. On ne peut pas être dans un état de plus grande dépendance que l'humanité sainte du Christ à l'égard des trois personnes divines. Grâce au mystère de l'union hypostatique, et par le mystère de l'union hypostatique. Le mystère de l'union hypostatique, nous ne pouvons pas le vivre. Mais il nous est donné. Et nous devons essayer de comprendre comment vivre ce mystère de l'union hypostatique de la manière la plus étroite qui soit. Est-ce que nos trois vœux ne sont-ils pas faits pour vivre dans cet état de dépendance à l'égard de la très sainte Trinité ? Dépendance à l'égard du Père, à l'égard du Verbe, à l'égard de l'Esprit Saint. Trois dépendances. C'est très vrai que la vie religieuse nous met dans un état d'étroite dépendance. La dépendance la plus forte qui soit. La plus totale qui soit. À l'égard du Père, du Verbe et de l'Esprit Saint. Par nos trois vœux. C'est facile de comprendre. À l'égard du Père, l'accomplissement de sa volonté. À l'égard de l'Esprit Saint, la pauvreté. Et à l'égard du Verbe, l'état de virginité. L'esprit de virginité. Il y a un lien très curieux de dépendance que tout chrétien doit vivre dans un esprit. Et le religieux veut le vivre dans un état. C'est-à-dire qu'il promet que cet esprit devient pour lui la règle de vie. Pour nous, c'est immédiat. C'est pas seulement un esprit, c'est quelque chose de plus. Ça doit être un esprit, ça peut toujours être un esprit. Autrement, on tomberait dans un formalisme. Mais ça doit être une exigence immédiate. C'est pour ça que je dis une règle de vie. À l'égard des trois personnes divines. Et je crois que nous pouvons mettre obéissance. Vous voyez, c'est ce qui serait très, très important à bien voir. Comment l'obéissance. Pas seulement l'esprit d'obéissance. L'obéissance à l'égard du Père. Le point de vue de la virginité. À l'égard du Verbe incarné. Et le point de vue de la pauvreté. À l'égard de l'Esprit Saint. De l'union hypostatique et dans cet état de dépendance absolue à l'égard du Père, qui reste libre, dans un état de pauvreté à l'égard de l'Esprit Saint et dans un état de pureté, de virginité à l'égard du Verbe. Mais tout ce que Jésus est ontologiquement par le mystère de l'union hypostatique. Nous essayons de l'être par la promesse. Mais ça se tient, il ne faut pas séparer. Ce sont des aspects différents. Un regard théologique sur le mystère des vœux. À la lumière de Marie, bonne terre, maternité divine de Marie. Et à l'égard d'incarnation. Je peux faire la même constatation à l'égard du mystère de la rédemption. Par nos vœux, nous voulons vivre le mystère de la compassion tel que Marie l'a vécu. Et nous voulons être unis au mystère de la rédemption, état victimal du Christ. Il est l'agneau. Sûr que notre vie religieuse fait de nous des agneaux. Agneaux immolés. La blessure du cœur. Alors, on va développer ensuite comment la compassion est vécue d'une manière toute particulière. Par le mystère de nos vœux. Avant, je me pose la question. Cette relation de Marie par sa maternité à l'égard de l'incarnation est différente de la relation de Marie compatissante à l'égard de la rédemption. J'espère que vous voyez bien la question. Je reprends. Maternité de Marie par rapport à l'incarnation. Compassion de Marie par rapport à la rédemption. Par rapport à la rédemption, je prends là tout de suite. Par rapport à la rédemption, la compassion de Marie, complémentarité. Elle est la femme. Elle est l'épouse. À l'égard de l'époux. Agneau. Donc, elle achève. Elle complète ce qui manque à la passion de Jésus. Ça, c'est très net. la compassion de Marie, c'est achever, compléter ce qui manque à la passion de Jésus. La maternité divine de Marie. Je ne peux pas dire qu'elle achève le mystère de l'incarnation. Non. Mais, par sa maternité, elle met dans le mystère de l'incarnation une plénitude. Grâce à Marie, le mystère de l'incarnation a pu connaître une plénitude qu'il n'aurait pas connue autrement. Puisque Dieu aurait pu créer un nouvel homme tout à fait semblable à nous, comme il a créé Adam. Sans que Jésus ait une mère. Que représente pour le mystère de l'incarnation de Jésus le fait d'avoir une mère? Ça ne change rien à la nature de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation est indépendant du mystère de la maternité divine de Marie. Vous voyez, il pourrait être indépendant. Dans la sagesse de Dieu, Dieu aurait pu créer un nouvel Adam. Un nouvel Adam qui n'est pas de mère, comme Adam n'a pas de mère. La mère d'Adam, c'est quelque chose. Adam n'a pas de mère, il est premier. Jésus, lui, nouvel Adam, il a une mère. Alors, nous le disons tout le temps, mais nous ne réfléchissons pas beaucoup sur qu'est-ce que ça apporte de plus au mystère de l'incarnation. Ça apporte au mystère de l'incarnation une plénitude, mais pas une complémentarité. Une plénitude qui fait que Jésus est parfaitement homme parce qu'il est fils de la femme. Être parfaitement homme, c'est être fils de la femme. Comme c'est beau pour la maternité. On n'est pas parfaitement homme si on n'est pas fils de la femme. Et Jésus a voulu être fils de la femme pour être parfaitement homme. Selon tout le développement de l'homme. Tu n'aurais pas pu créer un tout petit enfant. Tout petit. La fragilité du petit enfant dans le sein de sa mère, sans qu'il y ait une mère. Donc, il n'aurait pas assumé toutes les étapes de l'homme. Adam n'a pas connu toutes les étapes de l'homme. Tandis que, depuis Adam, tous les autres l'ont connu. Tous connu cette fragilité d'un tout petit enfant, cette petitesse d'un petit enfant. On n'avait pas conscience. Mais il y avait peut-être possibilité de l'inconscience. J'en sais rien. Il faudrait se demander si l'inconscient peut exister sans le conscient. Ça, c'est une question très importante. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inconscient qui se forme dans le sein maternel. Est-ce que l'inconscient peut exister sans le conscient? L'inconscient est en puissance, le conscient est l'acte. Mais vous allez me dire, c'est dans l'ordre du devenir. Et dans l'ordre du devenir, la puissance est avant l'acte. Donc l'inconscient peut exister avant le conscient. Alors, il faut comprendre, quel type d'inconscient? L'inconscient freudien, non. L'inconscient philosophique, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore conscient, oui. Mais pas l'inconscient freudien. L'inconscient freudien ne peut se comprendre qu'à partir du conscient, puisque c'est le refoulement. Il ne peut pas y avoir de refoulement s'il n'y a pas de conscience. C'est impossible. Et c'est très important, ça, parce que ça permet de voir qu'on imagine beaucoup. Il faut réfléchir là-dessus, hein, philosophiquement. Ça fait partie d'une des réflexions philosophiques par rapport à notre monde moderne. Est-ce qu'il peut y avoir un inconscient freudien sans le conscient? Posez-vous la question. Il peut y avoir un inconscient au sens philosophique? Oui. Et cet inconscient au sens philosophique n'a aucune répercussion. C'est simplement un état de fragilité. Sans aucune répercussion. Ce n'est pas tout le même inconscient que Freud. Du fait même que Jésus a opté, a choisi d'avoir une mère, il peut connaître tous les états de la nature humaine. Je crois que c'est pour ça qu'il meurt au moment où il atteint le sommet, 33 ans. Pour connaître toutes les étapes. Après, c'est le haut plateau. Comme il est Dieu, il n'a pas besoin de vivre sur le plateau. Donc il a vécu toutes les étapes, depuis la conception jusqu'à 33 ans. Après, il n'y a plus de croissance au sens absolu. Vous pouvez continuer de croître. Mais étant donné la perfection de son être, jusqu'à 33 ans, il y a eu une grande montée d'expérience et de croissance. Donc, la maternité divine de Marie apporte au mystère de l'incarnation une plénitude. La compassion de Marie apporte au mystère de la rédemption une complémentarité. Et donc, il y a là deux aspects très différents. Qui dit plénitude dit que la maternité divine de Marie a permis à Jésus de connaître toutes les étapes de la vie humaine. Consciemment, toutes les étapes de la vie humaine. Depuis le premier instant de la conception jusqu'à 33 ans. Tandis que le mystère de la compassion apporte une complémentarité par rapport au mystère de la rédemption. Et vous voyez bien que la maternité divine de Marie ne pouvait pas apporter une complémentarité par rapport au mystère de l'incarnation, parce que le mystère de l'incarnation implique une telle unité qu'il ne peut pas y avoir de complémentarité. C'est l'unité la plus forte qui soit. Puisque c'est les deux natures dans l'hypostase du Verbe. Oui.
Comment vous dites, il y a une complémentarité du mystère de la compassion de Marie, alors que Jésus dit à la croix que tout est consommé.
Et tout est consommé, ça n'a pas d'importance. La complémentarité, tout est consommé dans le Christ. Et c'est lui qui consomme tout. Et il demande à Marie de continuer de vivre. Alors à partir de ça, il n'y aurait plus rien. Marie a continué de mériter. Et l'Église continue de mériter. Et tout est consommé. Oui. Cette parole de Jésus, elle est pour lui. Au sens le plus fort. Tout est achevé dans le Christ. Et Jésus veut que Marie demeure. Et donc, que cette complémentarité continue. Dans la foi, l'espérance et l'amour. Non seulement Marie, mais l'Église. Et nous. Oui. C'est pas contradictoire, vous voyez. C'est pas contradictoire, ça fait partie du plan de la sagesse de Dieu. Saint Paul a dit après que Jésus a dit tout consommé, j'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Il l'a dit. Oui, après cette parole de Jésus. C'est du même ordre. Oui. Alors, vous essayez d'expliquer ça au point de vue de l'intensité et de l'extension. Oui. Du point de vue de l'intensité, tout est achevé. Tout est achevé avec Jésus. Et tout est achevé dans le Christ. Et du côté de l'extension, il peut y avoir cette complémentarité. La complémentarité n'est pas dans l'ordre de l'intensité, mais dans l'ordre de l'extension. Tandis que le mystère de la maternité divine de Marie, c'est pour permettre à l'incarnation d'être parfaite. Condition sine qua non pour que l'incarnation ait cette plénitude. Alors, si la vie religieuse, je parle toujours de cette hypothèse, si la vie religieuse nous fait vivre le mystère de Marie, la vie religieuse va donc permettre, elle aussi, dans l'Église, ces deux aspects. Plénitude du mystère de l'incarnation. Complémentarité du mystère de la rédemption. Peut-être deux grands... Souvent, on ne regarde pas comme ça. Ici, je les regarde par rapport à Marie. Parce qu'on ne peut pas nier que notre grâce chrétienne nous lie à Marie dans sa maternité. Maternité virginale. Et dans son mystère de compassion. Donc, si ceci est vrai, et ceci... Cela me permet de dire que la vie religieuse va apporter à l'Église deux aspects. Puisque l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le plérôme. Donc la vie religieuse va permettre plénitude, complémentarité. Pour bien. Vous voyez bien ça. Je voudrais que vous le voyez bien. On cherche. Hein. Parce que c'est deux aspects qu'on ne développe pas beaucoup. Je ne les ai pas vu beaucoup développer ça. Ça m'intéresse. Toujours pour mieux comprendre combien Marie est le modèle de notre vie religieuse. Combien Marie est mère de notre vie religieuse. Et donc, tout ce que nous découvrons en Marie, il y a une répercussion de notre vie religieuse. C'est impossible autrement. Or, le petit raisonnement que je viens de vous dire, je crois, est juste, point de vue théologique. Donc, il nous permet tout de suite de comprendre ces deux aspects. Par rapport au grand mystique, puisque c'est par rapport au corps mystique. La vie religieuse permet au corps mystique la plénitude. La vie religieuse permet au corps mystique de continuer le mystère de la compassion, donc la complémentarité du mystère du Christ crucifié. Je complète dans mon âme, ce qui manque à la passion de Jésus. Je complète dans mon corps ce qui manque à la passion du Christ. Mon âme et mon corps, les deux, comme complémentarité. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, en quoi consiste, quelle est la nature de cette complémentarité?
Mais c'est ce que je vais essayer de faire. Non, je vais m'arrêter un moment pour que vous voyez bien ces deux aspects comme conclusion. Oui, maintenant on va essayer de comprendre, de comprendre. Je suis d'accord, vous avez raison de devancer. Ça prouve que vous avez compris. On va essayer, oui. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez bien ces deux aspects par rapport au mystère de Marie. Oui.
La plénitude de l'incarnation, on comprend que la vie religieuse la permet, mais ça c'est propre à la vie religieuse, mais la complémentarité, même hors de la vie religieuse, on peut vivre la complémentarité.
Ah, mais tout peut être vie en dehors de la vie religieuse, heureusement. La vie religieuse, c'est la vie chrétienne vécue pleinement. C'est pas. Il ne faudrait pas dire, il n'y a que le religieux qui peut vivre ça. Non. Quelqu'un qui vit dans le monde, l'esprit de la vie religieuse, et qui pour telle ou telle raison n'a pas pu entrer dans la vie religieuse, mais le vit. Vous voyez? Je prends la vie religieuse parce que, institutionnellement, c'est dit dans l'Église. Vous voyez? Tandis que les individus, c'est pas institutionnellement. C'est personnellement. Mais quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu entrer dans la vie religieuse, et cependant vit de l'esprit de la vie religieuse, ça existe. Des prêtres, des mères de famille, des pères de famille moins, mais ça existe quand même. Ça existe quand même. Quelquefois, c'est le père qui est plus saint que la mère. Ordinairement, c'est la mère qui est plus sainte. Et on découvre de fait des mères de famille qui, pour une raison ou pour une autre, c'est très très mystérieux ça. Vous en verrez. C'est mais pourquoi je me suis marié? Parce que de fait, Dieu voulait qu'il y ait comme ça des individus épars. Mais institutionnellement, ces individus ne peuvent pas dire, viens faites comme moi. Non. C'est des grâces particulières pour chacun, en raison de tel ou tel obstacle, par rapport à la vie religieuse. Avec la vie religieuse, elle est institutionnalisée dans l'Église pour montrer cela dans l'Église, pour le manifester. Alors, si on ne le vit pas, c'est pharisaïque. C'est pour ça que c'est une obligation de le vivre. Nos vœux, c'est on vous donne un drapeau à porter le jour de vos vœux. Vous l'avez vu ce matin, le fanion. On a un fanion à porter. Et vous devez officiellement, devant tout le monde, faites profession. Tandis que la brave mère de famille, qui au bout de 15 ans de vie de mariage, ou 20 ans de vie de mariage, subitement, l'Esprit Saint lui dit, il lui fait comprendre qu'il faut vivre une vie. Elle a perdu son mari, le veuvage. L'Église a toujours considéré ça chez les veuves, plus que chez les veufs. Maintenant, il faut chez les veufs, parce qu'il manque de prêtres, alors on se sert des veufs. Mais ça, c'est très nouveau, vous voyez. C'est une espèce de mobilisation générale des veuves. Faut le dire, c'est vrai ça. Il y a une petite congrégation qui est pour ça. Je me souviens très bien quand on a commencé à en parler. Et ça pousse. C'est beau. Mais les veuves, elles restent dans le monde. Et elles vivent la vie religieuse. Et la primitive Église considérait que les veuves qui acceptaient qu'ils vivaient ça vivaient de fait. Institutionnellement, individuellement, oui. Elles pouvaient être beaucoup plus saintes que certaines religieuses qui portent le drapeau et le fanion institutionnellement. Oui, ça c'est sûr, comme ces bons veufs. Oui. Alors, j'essaie de comprendre, je crois qu'on peut dire ça, oui. Je dis je crois, parce que c'est toujours très difficile d'avancer dans des choses qui n'ont pas été dites. On dit tout le temps Marie est modèle de la vie religieuse. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est pas Jésus. Parce que Jésus est tout de suite dans un état de perfection. Tandis que le religieux est dans un état qui fait qu'on tend vers la perfection. Jésus est au-dessus de la vie religieuse. Et que Marie, elle, non. C'est pour ça que l'Église a toujours dit que Marie s'était consacrée à Dieu. Avant de rencontrer Joseph, elle s'est consacrée à Dieu. Donc elle est vierge, consacrée à Dieu. Et elle est mère, et elle est mère. Double maternité. Vous voyez, si Marie est vraiment modèle de la vie religieuse, je vois ce double rôle de Marie. Et j'essaie de comprendre plénitude du mystère de l'incarnation, complémentarité de la rédemption. C'est très très curieux, tu as ces deux aspects. Hein. La mère permet la plénitude. Et la vierge épouse permet la complémentarité. Ça, c'est les deux aspects. Alors, maintenant nous allons essayer de comprendre comment la vie religieuse doit-elle être dans l'Église la plénitude de la vie chrétienne. La vie religieuse peut être dans l'Église la plénitude de la vie chrétienne parce que justement, elle fait que les béatitudes évangéliques doivent être la règle de vie. Alors, les béatitudes évangéliques représentent la fleur, le fruit, ce qu'il y a d'ultime dans la vie chrétienne. Or, dans l'ordre surnaturel, ce qu'il y a d'ultime peut être premier. C'est ça le propre de la vie. C'est ça le propre, vous voyez, de l'ordre de la grâce. C'est que dans l'ordre de la grâce, vous ne pouvez plus distinguer l'ordre génétique et l'ordre de nature. Les deux sont unis. C'est pour ça que l'alpha et l'oméga se tiennent. Et que l'oméga est dans l'alpha. Et l'alpha est dans l'oméga. Ça, c'est sûr. Marie, au pied de la croix, vit l'Annonciation. L'Annonciation est présente, vis-à-vis de la croix. Et Marie, dans l'éternité, vit tout ce qu'elle a vécu sur la terre, comme Jésus. Tout ce qui est vécu dans l'amour, dans la charité, est vécu pour l'éternité. Alors, la vie religieuse apporte au corps mystique cette plénitude. Permettre au corps mystique d'être le plus proche possible du mystère de l'incarnation. Donc, de réaliser dans l'ordre de la vie ce que Jésus lui-même réalise dans l'ordre de l'être. Par le point de vue de la promesse, on donne à l'Église une stabilité. C'est pour ça que la vie religieuse doit donner à l'Église cette stabilité. Et quand la vie religieuse est secouée, oui, les derniers moments, toute cette crise qu'il y a eu dans l'Église, où même la vie religieuse et même la vie monastique a été secouée, et c'était très grave, puisqu'il n'y avait plus de stabilité. Stabilité, fidélité, ferveur. C'est ça qu'apporte la vie religieuse. Ce qui est normalement ultime peut être ce qui constitue la vie religieuse. La stabilité dans la fidélité, dans la ferveur, dans l'ardeur. Voilà ce que doit apporter la vie religieuse. Et donc elle apporte cette plénitude. Et la vie religieuse doit apporter la complémentarité. Voilà, ici. C'est très important. Et bien. je vous ai expliqué plus d'une fois ce qu'est la complémentarité de Marie à la croix. Je vais peut-être apporter un nouvel aspect qu'on peut développer au plan théologique. La complémentarité de Marie à la croix, elle est triple. L'agonie, la croix, le sépulcre. Jésus ne mérite plus au sépulcre. Marie seule mérite. C'est pour ça que ce mystère du sépulcre est réservé à Marie. Mais il est bien vécu dans la complémentarité, dans l'achèvement. C'est vrai que Marie seule mérite le mystère du sépulcre. C'est pour elle. Le mystère de la blessure du cœur à partir de la mort du Christ, tout est réservé à Marie. Et tout est achevé. Et tout est achevé du côté du Christ. Et tout continue de s'achever dans le cœur de Marie. La blessure du cœur, la descente de croix, la mise au tombeau. Tout ça, ce sont des mystères réservés à Marie. L'agonie, Jésus l'a vécue. La croix, évidemment. Vous avez donc trois aspects de complémentarité. Est-ce que ces trois aspects de complémentarité sont-ils à voir dans la lumière du mystère de la très sainte Trinité? Puisque le mystère de la très sainte Trinité est toujours présent en acte dans le mystère de la vie chrétienne. Le mystère de la croix, c'est lié au Père. Le mystère de l'agonie, je veux dire, c'est lié au Père. Le Verbe et l'Esprit Saint. Je crois qu'on peut dire ça. Il y a comme des liens particuliers avec le Père, le Verbe et l'Esprit Saint dans ce triple mystère de compassion. Il y a donc un lien particulier avec le Père qui se réalise dans l'agonie, un lien particulier avec le Verbe qui se réalise à la croix. Il y a l'Esprit Saint, on ne sait plus quoi. On va essayer d'expliquer ça. Le mystère de la complémentarité de Marie, de compassion, c'est parce que Jésus vit le mystère de l'agonie, de la croix et du sépulcre dans la pleine lumière de la vision béatifique. C'est dans la pleine lumière de la vision béatifique que Jésus vit le mystère de la croix. Par le fait même, il y a au plus intime de l'âme du Christ quelque chose qui échappe au mystère de l'Holocauste, au mystère de la croix. Tout ce qui est irradié de la vision béatifique, c'est au-dessus de toutes les souffrances. La vision béatifique fait qu'on ne vit plus des souffrances. Évidemment, ça présuppose cette grande vision que je crois vraie. C'est pour ça que je la garde. Que Jésus, dans son âme humaine, dès le premier instant de sa conception, voit de vision béatifique le mystère du Père, le mystère du Verbe et le mystère de l'Esprit Saint. Ça présuppose cela, puisque ce sont des théologiens modernes qui refusent ça. Avant, c'était très rare. Maintenant, je ne dis pas que c'est général, mais c'est très généralisé. Beaucoup le disent. Et le disent parce qu'ils ne comprennent pas du tout cette position de saint Thomas. Pour saint Thomas, c'est net. La grâce du Christ a une plénitude. La grâce du Christ ne peut pas augmenter à cause du mystère de l'union hypostatique, à cause de cet état de perfection dans lequel se trouve l'humanité sainte du Christ, du fait même qu'elle subsiste dans le Verbe de Dieu. Et donc, l'humanité sainte du Christ, par la plénitude de grâce qu'il reçoit du mystère de l'union hypostatique, connaît tout de suite un état de perfection. Et cet état de perfection, c'est que la foi que Jésus passe, la foi, je veux dire, la foi impliquant une imperfection, Jésus ne peut pas, dans son état de plénitude de grâce, connaître la foi. Le mystère de l'union hypostatique, mettant la nature humaine du Christ dans un état de perfection, cette nature humaine reçoit une plénitude de grâce qui ne peut pas grandir. Est parfaite dès le point de départ. Et donc, cette plénitude de grâce évacue toute possibilité de foi et d'espérance. Et donc, l'humanité sainte du Christ, dans ses sommets, dans son sommet d'intelligence et d'amour, vit dans la vision béatifique. Je ne peux pas l'affirmer d'une façon absolue. C'est une conclusion de théologien à partir du mystère de l'union hypostatique. Je ne vois pas, personnellement, comment on peut récuser cette conclusion. Ça, c'est très important, parce que ça montre que dans le mystère de l'union hypostatique, la nature humaine du Christ, dans ce qu'elle a de plus profond, de plus divin, échappe au mystère de l'Holocauste, de la croix. Et c'est là où je comprends la complémentarité du mystère de ma